Greg d'un ton ferme. Avant d'emmener Timmy s'amuser, il avait été de garde pendant 12 heures aux urgences et le service, surchargé comme d'habitude, avait passé la nuit sur les dents. Deux voitures, remplies d'adolescents, avaient fait la course sur la première avenue et s'étaient percutées et fracassées. Par miracle, tout le monde s'en était sorti vivant, mais 3 gosses avaient été sérieusement blessés. Greg lâcha la balançoire. Il était temps de la laisser ralentir et s'arrêter. Que Timmy n'ait pas protesté signifiait qu'il était sans doute prêt à rentrer à la maison lui aussi. De toute façon, ils étaient maintenant seuls. « Docteur !» Greg se retourna et se trouva face à un homme de taille moyenne, solidement charpenté, le visage recouvert d'un foulard. Il tenait une arme pointée sur sa tête. Instinctivement, Greg fit un grand pas de côté pour s'écarter le plus loin possible de Timmy. « Écoutez, mon portefeuille est dans ma poche, » dit-il calmement. « Servez-vous !»«
Papa !»
La voix de Timmy était empreinte de frayeur. Il s'était retourné sur le siège de la balançoire et regardait l'homme armé dans les yeux. Durant ses derniers instants sur Terre, Greg Moran, 34 ans, médecin réputé, mari et père très aimé, tenta de se jeter sur son agresseur. Mais il n'avait aucune chance d'échapper au tir fatal qu'il atteignit avec une précision mortelle en plein front.
« Papa !»
hurla Timmy. L'agresseur courut jusqu'à la rue, puis s'arrêta et se retourna. « Toi, dis à ta mère qu'elle est la prochaine !» cria-t-il. « Puis ce sera ton tour !» Le coup de feu et la menace furent entendus par Margie Bless, une femme d'un certain âge qui rentrait chez elle après son travail à mi-temps à la boulangerie du coin. Elle resta un long moment sans bouger, s'imprégnant de la scène de cauchemar. La silhouette qui fuyait, le pistolet se balançant dans sa main, et disparaissait au coin de la rue. L'enfant qui hurlait sur la balançoire, le corps affaissé sur le sol. Ses doigts tremblaient tellement qu'elle dut s'y reprendre à 3 fois avant de pouvoir composer le 911. Quand l'opérateur répondit, Margie put seulement gémir.
« Vite, vite, il pourrait revenir, il a tué un homme, ensuite il a menacé un enfant !»
Sa voix se voila tandis que Timmy hurlait.
« Cieux bleus a tué mon papa ! Cieux bleus a tué mon papa !»
Chapitre 1. Laurie Moran regardait par la fenêtre de son bureau au 24e étage du 15 Rockefeller Center. Elle avait vu sur la patinoire située au milieu du célèbre ensemble d'immeubles de Manhattan. C'était une journée froide et ensoleillée de mars, et de son poste d'observation, elle voyait les débutants vaciller, mal assurés sur leurs patins, tandis que d'autres filaient sur la glace avec la grâce de danseurs de ballet. Timmy, son petit garçon de 8 ans, avait une passion pour le hockey sur glace et s'était mis en tête d'être assez bon pour jouer dans l'équipe des New York Rangers quand il en aurait 21. Laurie sourit en songeant à Timmy dont les yeux bruns expressifs brillaient de plaisir quand il s'imaginait gardien de but dans de futurs matchs des Rangers. « Il sera le portrait de Greg », songea-t-elle. Mais elle se ressaisit et se concentra sur le dossier posé sur son bureau. À 36 ans, avec des cheveux couleur de miel retombant sur ses épaules, des yeux noisettes plus verts que bruns, une silhouette svelte et des traits classiques que ne soulignait aucun maquillage, Laurie était le genre de femme sur laquelle les gens se retournaient quand ils la croisaient. Jolie et élégante. C'était la description qui lui convenait le mieux. Productrice attachée au studio Fisher Blake, plusieurs fois primée, Laurie était sur le point de lancer une nouvelle série pour le câble. Une idée qu'elle avait déjà en tête avant la mort de Greg. Elle l'avait ensuite mise de côté, jugeant que les gens pourraient l'accuser de l'avoir conçue à la suite du meurtre jamais élucidé de son mari. Il s'agissait de faire la reconstitution de crimes non résolus, mais au lieu d'utiliser les acteurs, de réunir des amis et des parents des victimes afin d'entendre de leur bouche leur version des faits. Dans la mesure du possible, le véritable théâtre du crime servirait de décor. Une tentative risquée, avec un grand potentiel de réussite, mais des complications en perspective.